écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt thérapeute et formateur en relations humaines. Il propose avec Marie-Laurence, son épouse, au sein de l'Institut de formation psychrétien, à travers divers parcours, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres pour être plus disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans nos vies. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion et de partage ce soir, comment se libérer des scrupules et autres pensées obsédantes? Alors, je pense que tout le monde fait l'expérience plus ou moins de choses
voilà,
de ce type.
De pensées obsédantes. Alors, quand on a des soucis, on verra, on va regarder un peu quand ça se passe. Oui. Et puis, on parlera des scrupules, qui est une forme particulière de pensée obsédante. Alors, de la même façon, on peut tous avoir des scrupules à certains moments, justifiés d'ailleurs. Oui. Mais là, on va regarder aussi quand c'est pas justifié. Quand c'est justifié, voilà, si c'est normal.
Oui, c'est ça. Il y a des moments, c'est normal. Mais d'avoir des scrupules.
Même des pensées obsédantes. Du moment que ça ne dure pas,
c'est ça.
Que c'est lié à un événement, il arrive quelque chose dans la vie, on pense à ça de façon un peu répétitive, c'est normal.
Voilà. Donc.
Mais il arrive pour beaucoup de personnes que ça dure, que ça prenne trop de place, que ça soit trop intense aussi. Et dans ce cas-là, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Voilà, c'est devient au sens propre une obsession.
Ça devient une obsession que ça soit alors. Une obsession en tant que pensée sur n'importe quoi ou une obsession en tant que scrupule quand il s'ajoute la culpabilité. Hein, on verra les scrupules, c'est une forme de pensée obsédante, mais où il y a une forte culpabilité. Qui parfois, les scrupules, ça peut être sur tous les sujets, mais on verra aussi que parfois ça peut se fixer sur des aspects religieux.
D'accord, mais pas seulement
Pas seulement, non, ça peut arriver sur un peu tous les sujets. Alors le risque, c'est pour le croyant que ça se place au niveau religieux.
Hein. D'accord. Et de confondre,
ce qui relèverait de la dimension spirituelle, et puis le scrupule qui, lui, est complètement psychologique et révèle une problématique.
C'est ça. Alors, à quoi sont dues les pensées obsédantes?
Alors, pour résumer, on pourrait dire que, sans entrer alors dans tous les aspects inconscients, mais en restant au niveau conscient, elles sont dues à l'intelligence discursive. C'est notre intelligence, notre forme d'intelligence qui tient des discours en nous. Hein? Quand on pense, alors ça nous sert à raisonner.
Oui, hein? D'accord. Oui.
Voilà, c'est celle qui nous sert à raisonner, mais elle tient, c'est pour ça qu'on l'appelle discursive, parce qu'elle tient, on peut, grâce à elle, tenir un discours à l'intérieur de nous. Alors ça peut être pour faire quelque chose, mais
raisonner, voilà, mais sur une situation, par exemple.
Voilà, sur une situation, sur notre avenir, pour résoudre un problème, on va tenir un discours interne qui va nous préparer à l'action.
Oui. Mais tourner, là, on voit, c'est tourner vers l'action, ça débouche vers vers une action.
Voilà, ça va déboucher vers un engagement, vers une action, vers quelque chose.
Tandis que...
Alors, ben, quand c'est une pensée obsédante, finalement, ça tourne en boucle. Et dans une boucle qui devient obsédante, alors on regardera un peu qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette boucle, mais on pourra dire que ça finit que l'individu ne pense plus qu'à une seule chose d'une façon répétitive et parfois constamment. Quand c'est vraiment maladif, c'est constant. Et donc, il va y avoir des formes de pensée comme ça qui vont revenir sans arrêt à la conscience de la personne.
Vraiment polluer son psychisme.
Voilà, polluer son psychisme toute sa vie, parfois.
Alors, les pensées obsédantes peuvent porter sur quels aspects de la vie ?
Alors, quand on regarde, ben, finalement, elles peuvent concerner presque tous les aspects de la vie. Alors, il y a des domaines les plus fréquents. Ben, le plus fréquent pour les personnes lambda, ça va être les soucis. Que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous pose souci, ça peut être à l'origine de pensées obsédantes. Alors, c'est normal de penser à ce qui nous préoccupe.
Oui, quand on a une préoccupation, voilà. Bien sûr.
Et ce type de pensée obsédante, en général, elle dure jusqu'à ce qu'on ait résolu le problème. Voilà, si votre voiture est en panne, vous allez penser sans arrêt à comment la réparer, comment la mettre au garage, comment...
Mais en même temps, ça ne tourne pas en rond, c'est-à-dire qu'on cherche derrière une solution,
voilà,
c'est ce qu'on disait.
On cherche une solution.
Oui, donc c'est l'intelligence discursive qui agit de la bonne façon, mais c'est obsédant tant qu'on n'a pas trouvé la solution.
Voilà, sauf que le problème, c'est que quand on tourne comme ça en rond, même si on cherche la solution, alors parfois ça demande du temps à chercher la solution, mais si c'est une voiture en panne, on sait qu'il faut la mettre chez le garagiste.
Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête.
Voilà, c'est pas la peine de se prendre la tête pendant des jours. Oui. Et du coup, quand ça se passe comme ça, ça va occasionner d'abord une grande fatigue, parce que c'est fatigant de penser sans arrêt à ses soucis ou tourner en rond. Et puis, finalement, ça rend plus difficile de trouver la solution au problème, parce que la pensée vient remplacer l'action.
Ah oui.
Et du coup, on peut faire plein d'hypothèses dans sa tête, mais ça ne résout pas le problème.
Voilà, c'est ça. Ça bloque quelque part, même ça inhibe.
Alors, ça remplace l'action. Parfois, c'est utile. Si on veut aller au supermarché, par exemple, on va faire sa liste dans la tête. On va commencer à imaginer dans quel rayon est tel produit, si on connaît bien, si on va toujours au même endroit.
Ça permet d'aller plus vite.
Plus vite, voilà. Mais
disons.
Voilà, c'est une anticipation, mais il faut pas passer sa journée à ça.
Ben non.
Il faut pas passer sa semaine à ça.
Oui, bien sûr.
Et si ça dure trop, à ce moment-là, ça va être quelque chose qui va consommer notre énergie et qui produit pas finalement de bénéfices au final.
Donc...
Voilà, oui. Donc il y a cet aspect qui peut être normal quand ça mène rapidement à l'action. Si ça dure trop longtemps, si c'est en boucle, à ce moment-là, c'est fatigant.
Alors, quels autres domaines les soucis, bien sûr.
Les autres domaines, ça va être tout ce qui concerne l'anxiété, les angoisses... qui vont se porter là aussi sur certains aspects de la vie.
Mais alors, les soucis peuvent se transformer dans certains cas, justement quand c'est en boucle.
Voilà, quand une personne est anxieuse, ses soucis, ils s'associent à l'anxiété et ça risque de tourner en boucle. Et puis si le souci est très important, ça peut générer de l'angoisse et là, se fixer aussi sur certains aspects. Ça peut être, alors pour certains, ça va être des questions d'argent, la peur de manquer d'argent. Ça peut être la peur de perdre son travail, ou de pas être à la hauteur dans son travail, de pas être reconnu, de pas être aimé, la peur de l'abandon. Voilà, il y a toutes ces peurs-là qui peuvent devenir obsessionnelles.
Oui.
Alors, après, on peut toujours dire, il arrive de manquer de l'argent ou de risquer de perdre son emploi. Et dans ce cas-là, il est normal d'avoir peur.
D'avoir un souci.
Voilà, ou quand un couple fonctionne mal, par exemple, qu'il y en ait un qui ait peur d'être abandonné. Mais là, c'est lié à des circonstances ponctuelles.
Oui.
Et ça doit facilement être dépassé, ne serait-ce que par la raison. Se dire, bon, je suis inquiet pour mon travail, mais je travaille bien, il n'y a pas de raison. Voilà, on peut se raisonner. Quand c'est de l'angoisse ou de l'anxiété, d'abord, il n'y a pas réellement raison d'avoir ces pensées obsédantes. Elles n'ont pas vraiment lieu d'être. Voilà, et on trouve comme ça des personnes qui ont une belle situation, qui sont même reconnues, que leur patron leur dit qu'ils travaillent bien, qu'ils sont estimés et tout, et qui ressentent quand même cette peur d'être licenciés ou de pas être à la hauteur, malgré tous les compliments qu'on peut leur faire dans le travail. Et où ça revient régulièrement sous forme d'obsession avec cette angoisse de ne pas être à la hauteur, d'être licencié, ou de ne pas être à...
On comprend que là, il y a un problème quand même.
Voilà, et là c'est, il n'y a aucune circonstance qui justifie, c'est donc vraiment le signe qu'il y a un problème psychologique. Parfois, ça arrive aussi où c'est des angoisses un peu paranoïdes, sans que la personne soit paranoïaque, mais où ça va être la peur d'être surveillé, la théorie du complot. On parle des théories du complot. Ou l'espoir d'avoir un jour sa vengeance et tout ça peut se passer autant dans la vie personnelle que professionnelle. Voilà, par exemple, il y a des personnes qui angoissent et qui se méfient de leurs collaborateurs. Et ça devient obsessionnel. Ils ont peur de leurs collaborateurs. Ils ont peur que, je sais, de n'importe quoi, en fait. Hein.
La vie, à ce moment-là, elle devient...
Et dans ce cas-là, la personne vit presque tout le temps au travail dans l'angoisse, dans la méfiance.
C'est le contraire d'être dans la confiance. Hein.
C'est le contraire d'être dans la confiance. Et ça, sans que ça soit réellement fondé.
Oui, oui. Hein.
Ça ne veut pas dire que tous les collaborateurs sont gentils et bienveillants. Mais ça veut dire que là, c'est exagéré et que ça devient obsessionnel. Et puis, on retrouve aussi des gens, par exemple, qui ont la peur ou une phobie par rapport aux réseaux sociaux, qui, dès qu'ils mettent quelque chose sur Facebook, par exemple, après se mettent en l'obsession de qu'est-ce que ça va entraîner, est-ce que mes amis vont me rejeter parce que j'ai écrit ça sur Facebook, est-ce que... Et juste pour montrer à quel point ça peut se mettre partout. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans la majorité des cas, ça s'organise autour d'un fantasme. Alors, qui peut être de perdre l'estime de son patron, de se faire renvoyer, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Mais on pourrait dire que dans tous les cas, c'est un scénario catastrophe. Qui va revenir régulièrement envahir les pensées de la personne. Et du coup, ça risque d'occasionner des comportements inadaptés, alors des comportements d'évitement, Par exemple, la personne qui a une pensée obsessionnelle que son chef l'aime pas, ben, soit elle va l'éviter, soit elle va l'agresser, ou soit elle va le scotcher pour tout faire, pour être aimée. Et donc, ça induit des comportements plutôt inadaptés.
Inadaptés, oui.
Et qui peut même amener à dégrader la situation finalement, parce que ben, le chef, au bout d'un moment, il va pas comprendre et il va en avoir marre. Et ça, à l'extrême, ça peut réaliser le fantasme.
Oui, c'est ça.
Voilà, ouais. Si la personne a l'impression que son chef ne le reconnaît pas et que c'est pas fondé et qu'elle l'agresse sans arrêt, ben, il y a un moment, le chef...
Ça devient une pensée créatrice négative.
Voilà.
Qui crée du négatif.
Qui crée du négatif. Oui. Par le comportement oui. que ça induit chez la personne.
Alors, on va revenir à tout ça dans quelques instants. Donc ce soir, nous parlons des scrupules et autres pensées obsédantes, les scrupules étant une forme de pensée obsédante. On écoute, alors bien sûr, le téléphone, je vous le rappelle, 01 56 56 44 00. On écoute tout de suite Richard Cosciante. Sincérité.
Radio Notre-Dame.
Dans la journée, j'ai tout donné au travail. Et quand arrive la nuit, il me reste dans un grand ciel les étoiles. Dans les ruisseaux je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie, comme des amants que séparent les étoiles. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais nous donner. Les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie, comme des amants que séparent les étoiles. Dans la journée, j'ai tout perdu au travail, puis je reviens dans ta vie. Il nous reste dans un grand ciel les étoiles. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais nous donner. Dans la journée j'ai tout perdu au travail, puis je reviens dans ta vie. Il nous reste dans un grand ciel les étoiles. Je voudrais bien un jour tout te donner, tous les jours, toutes les nuits. Les rêves et les merveilles des étoiles. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais nous donner. Je voudrais bien un jour tout te donner, tous les jours, toutes les nuits. Les rêves et les merveilles des étoiles. Dans la journée j'ai tout donné au travail, et quand arrive la nuit, il me reste dans un grand ciel les étoiles. Sincérité, c'est bien tout ce que je peux te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est bien tout ce que je peux te donner.
Richard Cosciante, sincérité ce soir, eh bien, nous parlons des scrupules et autres pensées obsédantes avec Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute, formateur en relations humaines. Alors, nous disions que pour résumer, que les scrupules sont une forme de pensée obsédante, on va le voir plus tard. Mais dans finalement, dans les pensées obsédantes peuvent porter sur tout aspect de la vie. On a parlé des soucis, anxiété et angoisse.
Et angoisse, voilà. On disait que ça s'organisait autour d'un fantasme ou d'un scénario plus ou moins catastrophe.
Oui.
Et que parfois, ces pensées obsédantes induisaient un comportement inadapté qui faisait se réaliser le scénario. Mais que c'était parce que ça générait un comportement inadapté et que c'était pas prémonitoire ou intuitif en fait. C'est vraiment parce que la personne, à cause de ses pensées obsédantes, va générer un comportement qui va mener à réaliser ses peurs. Voilà. Alors autre... l'ennui, c'est que à contre-coup, ça lui donne l'impression qu'elle avait raison et ça va renforcer ses obsessions.
Bien sûr. Donc c'est ça.
C'est là où il y a une boucle qui se renforce un peu, pas à chaque passage, mais qui se renforce régulièrement comme ça.
Oui. Alors autre domaine de polarisation, on peut dire, des pensées obsédantes.
Voilà, alors, parfois ça va se porter sur la relation aux autres. Et là, on n'est plus vraiment dans l'angoisse, mais parfois ça va être des revendications. La personne va revendiquer d'être reconnue, d'être appréciée, d'être aimée. Et du coup, la pensée obsédante, elle vient s'associer à des besoins fondamentaux que souvent la personne ne reconnaît pas en elle-même.
Ces besoins fondamentaux.
Voilà, elle peut dire bien sûr qu'elle peut revendiquer une reconnaissance, mais sans vraiment reconnaître que c'est un besoin qu'elle porte en elle. Elle va dire que c'est juste, que c'est normal, qu'elle mérite d'être reconnue. Mais sans percevoir que finalement c'est plus un besoin, un appel en elle que quelque chose...
D'une situation extérieure, voilà. Oui.
Et du coup là, on n'est pas non plus dans des situations qui justifieraient, hein, parce que ça arrive que des revendications soient justes, mais bien autour d'un mal-être intérieur qui va se manifester sous cette forme-là, donc de pensée obsédante. Alors, quand on regarde, souvent, ça a correspondu à un moment de la vie, à une réalité, c'est-à-dire, y a un moment dans la vie de la personne où elle n'a pas été reconnue.
Comme les mécanismes de défense.
Voilà.
Ça fait pas partie des mécanismes de défense.
Alors, un peu, on en parlera après, mais c'est un mécanisme de défense.
Oui. Alors, donc, à un moment donné, ça a pu être...
Ça a été utile. Dans la vie présente, ça n'a plus de raison d'être. Et ça continue d'agir. Voilà, et souvent ça continue d'agir à l'insu de la personne qui va trouver normal d'exprimer ses revendications. Mais quand on regarde, finalement c'est pas justifié et là aussi ça va dégrader les relations. Ce qui va encore renforcer sa colère et sa revendication.
Mais alors, si c'est un besoin fondamental qui n'est pas reconnu, il y a besoin finalement d'avoir accès à une prise de conscience de ça.
Voilà.
Et ça va régler la situation s'il y a une prise de conscience que c'est un besoin fondamental qui n'a pas été...
En tout cas, ça va améliorer notablement parce que la personne, au lieu d'être dans la revendication vis-à-vis de l'extérieur, pourra se dire, tiens, c'est mon besoin de reconnaissance qui se manifeste encore
Et qui me fait réagir comme ça.
Donc, ça lui permet d'abord de prendre la responsabilité et non pas de la remettre à l'extérieur à l'autre.
Rejeter sur l'autre, projeter, oui.
Et puis de prendre une distance par rapport à ça. Donc il y a les deux, elle redevient responsable de sa vie et elle peut en prendre une certaine distance. Alors ça c'est, voilà, c'est un exemple, les revendications, mais pour d'autres ça va être plutôt sur les difficultés à être en relation. Par exemple, les personnes qui souffrent de phobie sociale, ils vont être obsédés par leur relation aux autres. Et sans arrêt, ils vont penser à comment ça s'est mal passé avec telle personne, ou je dois aller à tel endroit, et ça va être obsessionnel, avec la peur, bien sûr, de la rencontre avec l'autre. Mais sans aller jusqu'à la phobie sociale, c'est le cas pour beaucoup de personnes qui se prennent la tête, comme disent les jeunes, sur leurs relations, ou les personnes, un tel a dit, un tel a fait, ou un tel a pas dit, ou un tel a pas fait. Voilà. En tout cas, quand c'est répétitif, obsessionnel, on voit que là, il y a un mode de fonctionnement qui revient sans arrêt par rapport aux autres. On retrouve ça aussi chez des célibataires qui se posent beaucoup de questions au lieu d'aller à la rencontre de l'autre. Parce que finalement, le meilleur moyen pour ne plus être célibataire, c'est d'aller vers l'autre. Et finalement, au lieu d'aller vers l'autre, ils sont sans arrêt dans le questionnement sur « mais qu'est-ce que va dire la personne ? Est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce qu'elle m'aime pas ?»
C'est la peur d'être rejeté, par exemple.
Voilà, la peur d'être rejeté, mais qui va créer des pensées obsessionnelles.
Et peut-être renforcer la situation.
Et du coup, compliquer la relation, parce que la personne va rester en retrait au lieu d'aller vers l'autre ou de s'ouvrir aux autres. Et du coup, pratiquement tout échange ou toute activité où il y a les autres va devenir une source d'inquiétude et de réflexion en boucle. Alors bien sûr, ça rejoint le manque de confiance en soi, le fait de douter de tout un peu. Et le doute génère et générateur, alors le doute que ce soit par rapport aux relations, par rapport à l'action, il va générer du trouble dans l'esprit de la personne et puis occuper toutes ses pensées. Donc, dès qu'une personne est très souvent dans le doute, il y a un risque important d'être dans des pensées obsessionnelles, justement à cause de ce doute. Et là, on peut voir pour le célibat, ben, par exemple, c'est une problématique de l'engagement qui va être bloquée à cause du doute et à cause des pensées obsessionnelles.
C'est toujours l'action, la mise en action, l'engagement.
C'est l'engagement qui permet l'action et, et au niveau des pensées obsessionnelles, la personne est bloquée juste avant l'engagement, c'est-à-dire juste avant de pouvoir prendre une décision et de passer à l'action. Et voilà, et elle tourne en boucle sur ses pensées au lieu de passer au stade de l'engagement et de l'action.
D'accord, oui. Alors donc, à ce niveau-là, tout à l'heure, on disait une prise de conscience là pour des besoins vitaux, fondamentaux plutôt.
Voilà,
qui n'ont pas été reconnus. Pour cette difficulté de s'engager, par exemple, d'être en relation, ça va être aussi la prise de conscience. Enfin, ça, c'est le premier point.
Le premier point, ça va être de la prise de conscience de ce qui se passe, du discours, de pouvoir réfuter le discours, parce que souvent, c'est un discours qui est faussé. De rassurer sur les peurs, quand il y a du doute, de dire de vérifier. Parce qu'on peut douter de tout tant qu'on n'a pas vérifié. On ne sait pas. Voilà. Et donc, progressivement, d'aider la personne à clarifier tout le processus de pensée qui lui vient et surtout à s'engager, à passer à l'action. Parfois, de prendre le risque. De pas être aimé ou
le risque d'être vraiment oui enfin
alors rejeté non parce que en tout cas non, pour les célibataires les personnes quand elles se déclarent elles sont pas rejetées, l'autre ne peut pas ça peut ne pas être réciproque,
bien sûr
mais c'est pas du
rejet, c'est un processus normal, enfin voilà. L'autre dans sa liberté, voilà, c'est
voilà, il peut apprécier, ça peut être réciproque ou pas.
Oui, mais il vaut mieux que ce soit réciproque, si pour s'engager, de toute façon, autrement.
C'est plus agréable que ça soit réciproque.
Oui, de toute façon, pour s'engager, il vaut mieux quand même, parce que si c'est
il faut, pour s'engager, il faut que ça soit réciproque. Mais quand c'est pas réciproque, ça veut pas dire que l'autre va rejeter.
Non, bien sûr.
Hein? Et très souvent, quand les personnes osent passer le pas et aller vers l'autre, elles se rendent compte que l'autre est plutôt bienveillant, plutôt accueillant, même si c'est pas réciproque.
Oui,
voilà, il va dire, je suis désolé. Je t'aime bien, mais pas d'amour, pour m'engager avec toi, par exemple.
Il y a une pièce, là, je préfère qu'on reste amis.
Voilà, par exemple. mais c'est important parce que ça permet de vérifier d'abord qu'il n'y a pas le rejet.
Bien sûr.
Donc, de prendre conscience que les pensées d'avant étaient
bienveillantes, enfin, normales.
Voilà. Et que l'obsession était fausse.
Oui.
Et puis aussi, c'est rassurant de voir que la personne, finalement, elle est plutôt bienveillante et ça permet d'oser pour les autres fois.
Bien sûr. Donc, ça conforte les chaque pas en avant.
Voilà, chaque pas en avant permet, autant à chaque fois qu'on reste dans la boucle, ça s'en renforce.
Oui, mais chaque fois.
Autant à chaque fois qu'on fait un engagement, un pas dans l'action, ça vient
libérer
et diminuer le processus obsessionnel.
Alors, peut-être, Pisona, c'était par rapport aux relations aux autres, autres domaines où peuvent se polariser les pensées obsédantes.
Alors, la solitude, et là, souvent, les pensées en boucle viennent combler le sentiment de solitude. Mais ça, c'est vrai pour les personnes qui vont nier souvent leur solitude. C'est-à-dire, la personne, elle va dire, mais moi, je suis solitaire, je n'ai pas forcément envie d'aller vers les autres, je suis bien comme ça. Et finalement, elle n'a pas conscience de son mal-être dans la solitude. Tout simplement parce que les pensées en boucle viennent occuper tout l'espace intérieur, et du coup ça empêche le ressenti de la solitude et du mal-être.
Ça masque plus que ça comble. Oui, ça masque, oui. Le terme est plus juste.
Alors, parfois, la solitude est telle que la personne se parle à elle-même, qu'elle tient un dialogue interne, c'est comme si elle se coupait en deux, et puis qu'il y avait une partie qui tenait un dialogue avec l'autre partie d'elle-même, ce qui d'ailleurs lui donne l'impression, là aussi, de parler avec quelqu'un.
C'est pas un dialogue entre le conscient et l'inconscient, là.
Non, c'est deux parties d'elle-même, deux parties conscientes d'elle-même qui... elle s'est coupée en deux et un dialogue comme ça à l'intérieur d'elle-même. Voilà, mais le problème, c'est que la personne est une.
Ben oui.
Et qu'elle a beau se couper en deux ou en trois ou autant qu'elle veut, tout ça c'est une seule et même personne, et finalement ça finit par tourner en boucle.
C'est un peu schizophrène de se couper comme ça, c'est autre chose.
Non, parce que là on n'est pas dans la schizophrénie, oui. c'est pas dans le délire, c'est plus de ce coupée de façon à pouvoir dialoguer.
Ah oui.
Il y a une partie qui, par exemple, qui pose les questions, puis l'autre qui y répond.
D'accord, oui.
Voilà, donc c'est plus un dialogue interne, mais qui peut donner l'illusion d'un dialogue, mais qui quand même tourne en boucle, parce que c'est la même personne qui dialogue, et forcément, ça tourne en rond au bout d'un moment, en tout cas.
Oui.
Mais, voilà, ça permet à la personne d'éviter son sentiment de solitude. Mais en même temps, si c'est répétitif, ben, ça la coupe des autres.
Ben oui, c'est ça, oui.
Et ça lui permet pas de...
d'entrer en relation,
voilà,
de...
Ni de prendre conscience finalement la solitude crée un mal-être en elle qui pourrait l'inciter à aller vers les autres, à rencontrer des gens, et du coup à s'ouvrir aux autres.
Voilà, et donc ça tombe bien. Alors je rappelle le téléphone et le thème de la soirée, donc 01 56 56 44 00 avec Pascal Parinet. Et avec vous, nous parlons des scrupules et autres pensées obsédantes ce soir. Et donc, ça empêche d'aller vers les autres. Et Yannick Noah, lui, chante « Ose, il faut oser hein. ».
Tout à fait.
Radio Notre-Dame.
Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard. Et peut tout changer.
Ose, ose, ose. Oh, redonne à ta vie sa vraie valeur. Ose, ose, ose. Oh, redonne à ce monde toutes ses couleurs.
Presque rien, un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer. Tu dois tout changer. Alors, redonne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, une route, tu peux avancer. Presque rien, un regard.
Voilà, ben Yannick Noah nous dit a osé se reconvertir de tennisman de haut niveau à un chanteur qui a des chansons profondes.
Qui a de très belles chansons, et là Il nous dit d'oser, d'en donner de la valeur à, à la vie et des couleurs.
Des couleurs, oui.
Voilà. Mais en osant, on sort de cette boucle des pensées obsessionnelles pour entrer dans l'action.
L'action, la créativité.
La créativité, et ça donne de la valeur à la vie et de la couleur aussi.
Oui,
la couleur, ça permet de se sentir vivant, de s'animer, d'être heureux.
Oui, bien sûr. De la vie, de la joie, de la vie.
Voilà.
Alors, on voyait que ces pensées obsédantes concernent beaucoup de domaines de la vie. On voyait les soucis, l'anxiété, angoisse, solitude, mais encore d'autres domaines. On peut peut-être citer encore d'autres.
Alors, il y a encore, juste pour exemple, l'image de soi aussi. Les obsessions peuvent se porter sur l'image physique ou psychologique, l'un ou l'autre, ou les deux parfois. Au niveau physique, on va retrouver ça chez toutes les personnes qui sont obsédées par leur apparence, par des régimes, par leur poids, par des petits défauts. On le retrouve aussi dans l'hypochondrie où les obsessions se portent sur la maladie. Enfin, la maladie imaginaire. Mais il y a quand même, la personne ressent quand même, ou a une impression de ressentir des symptômes. Et après, elle va s'imaginer avoir une maladie grave.
Qu'elle peut induire aussi, là, à force de... Non ? Pas forcément.
Non, pas forcément. Non, on est plutôt vraiment dans quelque chose d'imaginaire. Ou d'un ressenti qui est mal interprété. Ça peut être un ressenti d'angoisse, de tension, qui crée de la douleur ou autre, qui vont être interprétés non pas comme je suis stressé, non pas comme j'angoisse, non pas comme j'ai peur, mais comme j'ai une maladie.
Oui.
Donc c'est vraiment... une prise de conscience de son corps qui est faussée et qui en plus est mal interprétée.
Donc ça concerne ça, ça concerne l'image de soi, c'est ça ?
Voilà, mais en même temps on pourrait dire que tous ces questionnements par rapport à l'image physique, bien sûr, elles vont rejoindre des processus psychologiques et être en lien avec. Alors, au niveau psychologique, on va retrouver les aspects moraux de l'image de soi, comme d'être quelqu'un de bien, d'être performant, d'être légitime, d'être digne, ou encore d'être à la hauteur de perfection. Et là, la personne va être sans arrêt sur des pensées par rapport à sa légitimité, à faire tel travail, ou la contrainte de perfection, donc de toujours devoir faire les choses parfaitement.
Perfectionniste, non ?
Voilà, être perfectionniste, mais d'une façon vraiment exagérée, obsessionnelle. Alors, bien sûr, quand ça se porte sur les images de soi, ça va être en rapport avec une problématique narcissique qui peut être de surévaluation, de trop être attentif à son image, mais d'une façon trop positive. Mais d'une façon obsessionnellement, même si la personne a une image positive d'elle-même, mais dans tous les cas, ça reste obsessionnel, ou au contraire, dans des sentiments d'infériorité, d'indignité, de pas être à la hauteur. Et tout ça va aussi induire des comportements inadaptés dans les relations aux autres, et avec le risque toujours de se sentir isolé, de se sentir rejeté ou de pas se sentir compris. Mmh. Alors on avait fait une émission il n'y a pas longtemps sur l'image de soi, la timidité, qui parlait de tout ça.
Est-ce qu'il y a encore d'autres domaines où se polarisent les pensées obsédantes?
Oui, alors sur tout ce qui est de l'ordre des pulsions ou des instincts, donc ça peut se porter, en tout cas être en lien avec les pulsions et les instincts, alors soit sous forme d'addiction, soit sous forme de restriction. Voilà, et ça c'est le cas par rapport à l'alimentation par exemple, ou par rapport à la sexualité. Et on va retrouver les deux versants, un qui va vers la compulsion, donc vers la répétition et le phénomène obsessionnel, et un autre qui va plutôt vers l'inhibition ou carrément l'annihilation. Alors on est au niveau alimentaire, on trouve ça par exemple dans la boulimie ou le grignotage incessant, où il y a une obsession par rapport à la nourriture, par rapport à la prise de poids, par rapport à l'image de soi, par rapport au fait de contrôler ses pulsions alimentaires. On a la même chose sur l'autre versant, côté anorexie. Et où chez les personnes qui font des régimes de façon répétitive, sans que ça soit forcément de l'anorexie, mais qui sont dans l'obsession des régimes. Au niveau sexuel, de la même façon, il peut y avoir soit une addiction par rapport à des comportements sexuels, soit une aversion. Et les pensées peuvent se fixer soit sur des fantasmes sexuels, soit au contraire sur l'angoisse de l'impuissance, l'angoisse de la frigidité, l'angoisse de ne pas avoir de désir, ou sur la performance aussi. Il suffit de lire les magazines actuels, où on voit qu'il y a une obsession de la performance au niveau de la sexualité. Et puis parfois ça peut même aller jusqu'à des TOC, donc des véritables troubles obsessionnels, à chaque fois qu'il y a un désir sexuel qui s'éveille, eh bien la personne va avoir un TOC de façon à annuler ce qui est éveillé en elle. Et je pense comme ça à une personne qui, à chaque fois qu'elle a rencontré quelqu'un de séduisant dans la rue, et donc la personne lui plaisait et que ça a éveillé chez elle des désirs, eh bien, elle était obligée de faire 3 pas en arrière pour annuler.
Vraiment physiquement?
Physiquement, il fallait qu'elle fasse 3 pas pour annuler toutes ses pensées en lien avec
et ça fonctionnait?
Le désir qu'elle est. Alors ça fonctionne, mais c'est quand même pas très pratique.
Ça constituait un TOC.
C'est un TOC avec comme objectif d'annuler les pensées qu'elle trouvait malsaines. Alors que c'est normal de trouver quelqu'un de séduisant ou autre, mais
parce que c'était lié à quelque chose de moral, on peut dire, non?
À quelque chose de moral
mal interprété,
et à une culpabilité en lien avec cette morale mal interprétée pour le coup, et du coup ça générait une telle angoisse qu'il fallait, alors là c'était faire des pas en arrière pour annuler, le processus et du coup ne pas se sentir coupable.
C'est comme si, le fait de... Comme si ça n'existe... Voilà,
c'était une façon... elle aurait écrit sur un bout de papier, elle aurait gommé. Marchant en arrière, finalement, elle revenait un peu dans le temps.
Une situation avant.
Le temps. Symboliquement, et puis elle pouvait repartir sans avoir ces pensées-là.
Mais c'était sa façon de régler le problème, on peut dire, alors qu'il n'y avait pas de problème.
Oui,
quoi.
Et en même temps, il n'y avait pas de raison qu'il y ait de problème, et puis surtout, ça lui créait, c'est cet exemple-là, mais c'était un peu plus vaste comme problématique dans sa vie. Mais enfin, c'est pas une solution non plus très très agréable pour
non,
les...
non.
Voilà, mais c'est juste pour montrer à quel point ça peut aller
être handicapant.
Être handicapant dans la vie de certaines personnes.
Mm. Oui, alors donc voilà, ça c'était encore un autre.
Voilà,
on pourrait
parler aussi quand il y a une difficulté à avoir un enfant sans qu'il y ait forcément d'infertilité, mais quand un enfant tarde un peu à venir, très souvent, en tout cas chez les femmes, ça va générer des pensées obsessionnelles. Et qui vont se porter souvent sur des aspects assez mécaniques, enfin sur des aspects du corps, mais dans une vision mécanique.
Oui.
Donc loin du plaisir partagé, de la relation à l'autre dans la sexualité.
Parce que la relation est comme... est plus première.
Là, la relation n'est plus première. Les rapports sexuels deviennent... deviennent une obligation, la sexualité elle est vécue sous l'obligation de ces pensées obsessionnelles, voilà, les personnes...
La finalité de l'enfant qui ne vient pas.
Alors, il y a la finalité de l'enfant qui tarde à venir, il y a l'obsession par rapport au cycle, l'obsession, alors elle peut se porter sur l'alimentation aussi, il faut manger ça pour avoir des enfants ou pas manger
tout devient obsessionnel
autour de la problématique de l'enfant, de l'attente de l'enfant, et puis avec une vision assez mécanique en général. Voilà, et là aussi il y a à comprendre que c'est pas par la volonté que ça se fait, c'est la nature qui fait son œuvre et qu'il est important de pouvoir lâcher, vivre la relation tout en lâchant. Alors c'est pas facile. Hein,
l'objectif, oui.
Quand la personne attend, et puis il y a le cycle mensuel qui vient rappeler, mais de lâcher et d'être vraiment dans la relation et non pas dans la sexualité devient l'obligation de faire un enfant.
Et bien souvent, quand il y a cette détente, l'enfant vient. Enfin, c'est parce que les choses, elles se...
Voilà, l'enfant vient et on voit comme ça, Ça arrive avec la thérapie, par exemple. Quand la thérapie a avancé, la personne, finalement, elle tombe enceinte. Ça arrive avec l'adoption aussi, des gens qui n'arrivant pas à avoir d'enfants adoptent, et une fois qu'ils ont adopté, ils conçoivent un enfant simplement parce que l'adoption a fait d'eux des parents.
Ah, oui.
Et donc il n'y a plus toute cette problématique de devenir parent.
J'allais vous demander c'est ça. C'est la problématique. Là, l'obsession, c'est finalement de l'enfant. C'est aussi de l'ordre de ne pas pouvoir être parent.
Voilà, derrière, il y a une problématique par rapport à la parentalité, par rapport à ses propres parents, ou à transmettre la vie. Enfin, donc par rapport, en tout cas, à la position de devenir parent. Que ce soit par rapport aux ascendants ou aux descendants. Mais du coup, l'adoption vient éliminer cette problématique puisque de fait, la personne devient officiellement parent et ça règle le problème. Voilà, enfin, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas fait de thérapie, pour aller...
C'est ça, le fait d'adopter fait devenir parent et ça... Ça libère quelque chose, quoi.
Oui, ça retire les blocages inconscients, puisque de fait, la personne, elle l'est devenue.
Voilà, donc le problème est réglé quelque part au niveau de son inconscient. C'est ce qui était le blocage.
Ouais. Ouais.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, on va se retrouver dans quelques instants, enfin tout de suite après 23h. Je rappelle le téléphone à nos auditeurs, 01 56 56 44 00. Nous parlons ce soir des scrupules et autres pensées obsédantes. On va revenir tout à l'heure un peu plus tard aux scrupules. N'hésitez pas à nous rejoindre pour témoigner aussi de situations. qui correspondent, et Pascal Pariné vous éclairera. On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame. Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 9h15 et 19h50. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque de France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 9h15 et 19h50 sur Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi. C'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, Thierry Georges vous emmène en voyage à l'autre bout du monde. À la découverte d'une ville, de sa culture et de ceux qui y vivent. Suivez le guide tous les dimanches à 11h sur Radio Notre-Dame.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Donc, ce soir, eh bien, nous parlons des obsessions, hein, des pensées obsédantes, plus exactement, et des scrupules qui sont une forme de pensée obsédante. Et donc, on voit que ça peut se porter sur tous les domaines, hein, de la vie.
De la vie, oui. Pratiquement sur tout. Tous les domaines de la vie, que ce soit de la vie intérieure ou de la vie extérieure.
Donc nos auditeurs sont invités aussi à nous rejoindre, hein, au 01 56 56 44 00. Est-ce que vous avez dans vos prochaines...
Dans nos prochains stages. Alors,
prochains stages, quelque chose qui...
Pas directement. On a un stage sur comment gérer les émotions et le stress, oui, et comment s'affirmer les 3 et 4 novembre.
Oui.
Voilà, donc là, ça participe à, oui, à éliminer, par exemple... tous les soucis liés aux aspects émotionnels ou tout ce qui pourrait être un peu obsessionnel lié à des aspects émotionnels.
Donc là ça peut régler
aider. Stress, oui, oui. Voilà. Mais c'est pas directement c'est plutôt centré sur comment on vit ses émotions, comment on peut les accueillir et les gérer. D'une façon concrète et à partir d'exercices concrets.
Ça concerne tout ce qui est émotionnel plutôt.
Tout ce qui est émotionnel et affirmation de soi, d'oser se dire, d'apprendre à se dire, d'oser se dire. Et puis en janvier, il y a un stage sur comment gérer son histoire.
Donc là aussi, on peut retrouver des points. Dans son histoire qui
peuvent générer des obsessions. Alors il y a tous les aspects de l'histoire familiale avec les loyautés, les scénarios dans la famille, les identifications. De prendre conscience à la fois de son passé mais des enjeux présents qui sont en lien avec sa famille. Et puis d'apprendre à mettre une juste distance. autant c'est important de conserver les liens avec la famille, parce que c'est là où sont nos racines, autant faut trouver sa juste place dans la famille, ni être absorbé par sa famille, ni à l'extrême se détacher de l'indifférence par rapport à sa famille. Donc de trouver quelle place on peut occuper par rapport à... à sa famille, et ça c'est à chaque fois un peu particulier en fonction des situations de chacun. Et donc c'est un stage aussi sur apprendre à se positionner, apprendre à être en relation, d'abord au sein de sa famille, mais d'une façon plus générale par rapport aux autres.
D'accord. Voilà. Et ça, c'est en janvier.
C'est en janvier. Et tous les mois, il y a une journée de groupe où là, on travaille non pas sur un thème particulier, mais à partir des problématiques qui sont amenées par chacun.
D'accord.
C'est un vendredi par mois et chacun amène... je peux vous donner la date du prochain. Chacun travaille ce qu'il veut, en fait.
En groupe,
oui.
Et alors, il y a un partage, je ne sais pas, non ?
Oui, c'est à la fois, c'est un travail individuel au sein d'un groupe.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'on fait, c'est moi qui anime, donc on fait, la personne travaille d'une façon individuelle. Et en même temps, elle peut utiliser les membres du groupe pour travailler les relations.
Oui, ça intègre pour, dans la relation. Oui.
Voilà, pour représenter des situations, par exemple. Elle peut demander aux personnes du groupe de représenter une personne extérieure.
Pour
travailler sur la relation, sur comment ça se passe, comment ça bloque, et permettre de débloquer quand il y a des blocages ou d'exprimer plus de créativité par rapport à une situation.
D'accord.
Voilà, le prochain, c'est le 17 octobre.
17 octobre, vendredi.
C'est un vendredi par mois.
D'accord. Donc voilà, on peut donner peut-être les
oui, le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60.
Oui.
06 60 15 79 60. Voilà, et le site, c'est Institut de formation, psy comme le début
tout,
de psy.
Tout attaché.
Toutattaché.com. Voilà, il est en reconstruction, il va fonctionner bientôt, enfin, il commence à fonctionner sur les mobiles, iPad, smartphone, iPhone et tout ça.
D'accord.
Voilà, mais il y a encore quelques petits réglages à faire, mais il y a déjà pas mal d'infos qui fonctionnent bien.
Et c'est vous qui faites ça ?
Non, je suis aidé. Enfin, j'en fais une partie pour le contenu.
Pour le contenu, mais la forme, il faut quand même quelqu'un...
La forme, il y a des aspects un peu techniques qu'il faut connaître.
Chacun son travail. Ouais. Voilà, c'est pour les informations pratiques. On peut poursuivre, alors, puisque nous avons vu les différents domaines, c'est-à-dire à peu près tous, où peuvent se fixer, on peut dire, ces pensées obsédantes.
Il faut garder ça à l'esprit, parce que tout ça, ça va être vrai aussi pour les scrupules.
Oui, d'accord. D'accord.
On verra, ça peut se fixer aussi sur tout de la même façon, simplement, il y aura la culpabilité d'une façon très présente en plus.
D'accord. Alors, quand on est là, quand on a exposé un peu tous ces domaines, quelle est la façon de s'y prendre ? Quel regard on peut poser solutionner
Quand on regarde souvent, les personnes, elles se posent des questions sur l'obsession, sur il y a telle chose qui m'obsède, qu'est-ce qui fait que c'est cette chose-là Alors, ça peut être utile, mais c'est intéressant de porter aussi d'autres regards. D'abord, de les voir comme symptômes. C'est-à-dire de se dire, Je pense sans arrêt à ça, mais est-ce que c'est pas le symptôme d'autre chose ?
Comme si ça cachait quelque chose.
Voilà, enfin, comme si...
exprimer quelque
voilà,
chose.
Oui. Ça exprimait autre chose. Mmh. Et de quelque chose qui serait plus profond dans la personne et dont elle n'aurait pas conscience.
Mmh. Un train peut en cacher un autre.
Voilà. Et du coup, ça permet d'appréhender les choses de deux façons. La première, c'est à court terme qui va consister à supprimer le symptôme, donc à supprimer l'obsession.
Ah, en supprimant le symptôme, on peut supprimer le symptôme.
Mais à partir du moment où l'obsession est symptôme,
ah oui, bien sûr.
On va chercher à supprimer le symptôme, donc à supprimer cette obsession.
Mais si ça ne supprime pas, c'est que ça vient d'ailleurs.
Voilà. Oui, c'est suffisant.
C'est suffisant, donc parce que voilà, ça vient du symptôme.
Voilà, parfois on va c'est regarder que cet aspect-là,
oui,
et ça va suffire.
Ça fonctionne. Bon.
Voilà, par exemple sur les soucis ou sur des choses assez objectives, c'est assez... il suffit de regarder le symptôme... de le travailler un peu, et puis ça va suffire pour le faire disparaître. Et puis, il y a une autre façon, à plus long terme, pour le coup, qui cherchera plutôt à la prise de conscience de ce qui est à l'origine des pensées obsédantes. Mmh. Donc là, on travaille plus en amont. Mais ce qui est important, c'est que ces deux visions, elles ne sont pas en opposition. C'est pas... Il y en a une qui serait bonne et l'autre moins bonne ou je sais pas quoi, mais elles sont plutôt complémentaires et on peut même voir un aspect circulaire très souvent qui va être d'atténuer le symptôme au travers des prises de conscience. Et plus les prises de conscience sont importantes et plus le symptôme va diminuer, parfois jusqu'à disparaître. Mais tout ça va dépendre en fait de la problématique, de son intensité, de sa fréquence, du niveau de souffrance chez la personne, en gros de la situation de la personne. Donc il y a des personnes, ça sera assez facile, entre guillemets, ou assez rapide de supprimer le symptôme. Pour d'autres, il faudra aller un peu plus en profondeur, mais le fait d'aller en profondeur va aussi, au fur et à mesure, diminuer le symptôme.
Donc ça fonctionne ensemble.
Voilà. Et puis il y a un avantage, c'est que finalement, de porter un regard sur ces pensées obsessionnelles comme ça, comme un symptôme, comme étant le symptôme de quelque chose, ça permet aussi à la personne de prendre une certaine distance et du coup de moins les subir.
Oui, parce que la distance permet la prise de conscience, il y a une...
Voilà.
Donc c'est moins prégnant.
Voilà,
quoi.
Et puis quelqu'un qui a l'obsession de je sais pas trop quoi... elle a en prenant conscience que c'est un symptôme, elle peut se dire c'est mon symptôme, un peu comme quelqu'un qui a des rhumatismes, il peut se dire j'ai des rhumatismes,
mais il localise,
peut-être que le temps va changer.
D'accord.
Et là, elle se dit j'ai mon symptôme, mais peut-être ça va passer, peut-être ça va aller mieux. En tout cas, elle peut porter un autre regard dessus, prendre une distance qui, du coup, facilite aussi l'abaissement ou la diminution des pensées obsédantes.
Parce qu'il y a une prise, la personne a prise sur quelque part.
Ça lui permet d'avoir une prise, c'est plus quelque chose qu'elle subit, alors même si un symptôme on le subit, mais en tout cas elle a un autre rapport avec qui fait qu'elle subit moins que quand elle est complètement dans le fait de subir.
Alors donc ça c'est son... les symptômes, la pensée obsédante comme symptôme, on peut la voir comme cela, oui.
Voilà, une autre façon de le regarder, c'est de les voir comme une défense. Parce que finalement, les obsessions constituent une défense face à une problématique qui est plus profonde et qui risquerait de fragiliser encore plus la personne. Par exemple, une dépression. Mmh. Voilà, il peut arriver que des mécanismes un peu obsessionnels ou des rituels protègent la personne de la dépression.
C'est un mécanisme de défense là pour.
Alors là, pour le coup, c'est un mécanisme, c'est un peu un mécanisme de défense. Alors, qui a eu, en tout cas, une utilité quand il a été mis en place. Voilà, parce que parfois, ça s'est mis en place dans la jeunesse. Et à ce moment-là, peut-être que la personne vivait des événements qui auraient pu l'amener à être en dépression, donc elle s'est protégée. Mm-hmm. Après, la question, c'est est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ces obsessions sont toujours utiles? Est-ce qu'elles protègent toujours de la dépression? Ou est-ce qu'il n'y en a plus besoin? Ou est-ce que la personne a acquis une maturité suffisante pour pouvoir gérer les choses autrement que par ces mécanismes?
Oui, d'accord.
Voilà, on peut prendre aussi l'enfant qui fuit la solitude ou l'ennui dans le rêve. Il va créer une habitude comme ça à se couper du monde et à partir dans des pensées, alors souvent dans les mêmes rêves ou dans les mêmes choses. Au départ, c'était utile, même nécessaire, mais ouais, maintenant qu'il est devenu adulte, est-ce qu'il a encore besoin de se couper du monde comme ça et de partir dans ses pensées d'une façon récurrente? Voilà.
Et parce que pour l'enfant, ça peut être... Oui, mais pour l'adulte, il doit pouvoir transformer ça en créativité,
voilà.
En action encore,
oui.
En engagement.
Ou en tout cas, reprendre contact. Là où il a dû couper le contact avec son corps, avec l'environnement, parce que, parce que c'était l'ennui ou trop douloureux.
Donc ça, c'est une reprise de contact avec le corps, avec le...
C'est une reprise de contact avec soi-même et avec l'environnement, mais les deux vont ensemble. Et du coup, autant ça a été utile de couper le contact pour l'enfant, parfois, autant l'adulte, c'est plus utile, parce qu'il est dans une situation différente, parce qu'il vit plus les mêmes choses, parce qu'il n'a pas les mêmes ressources. Et du coup, là, il y a tout un travail de reprise de contact avec l'environnement, avec le concret à faire. Et de déshabituation, en quelque sorte, à partir comme ça dans le rêve.
Oui, parce que ça crée une habitude aussi.
Après, c'est un mécanisme habituel et inconscient, qui devient complètement automatique. Et c'est ça, alors il faut d'abord aider la personne à prendre conscience de cet automatisme, à voir comment elle part, à quel moment, comment elle peut revenir. Est-ce qu'elle se rend compte quand elle revient par exemple, il y a des personnes qui peuvent faire tout le trajet de chez eux à leur travail en étant complètement absent. Et arriver au travail, se dire
je suis là.
Voilà, j'ai fait ça et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, je ne sais pas.
Ah oui, une absence.
Une absence complète.
Oui. Et ça, c'est une protection du passé pour oublier, quoi.
C'était un moyen de se couper de l'environnement pour fuir quelque chose. Et c'est une habitude qui a été prise, mais qui continue dans la vie adulte. Mais la personne, c'est tellement habituel, c'est tellement un mode de fonctionnement qu'elle ne s'en rend pas compte. Sauf que de temps en temps, elle se dit, j'étais
ailleurs.
Je sais pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. Mais Voilà, après on travaille sur comment elle part, alors
et comment elle revient. Ça peut être dangereux, non, ça peut être dangereux aussi si on voit rien.
Voilà, parfois ça peut être dangereux.
Si on est vraiment dans la lune.
Enfin, parfois ça peut occasionner des accidents ou des choses comme ça.
Parce qu'on n'est pas présent à la circulation par exemple. Ou... Mais ça arrive de voir là des fois des personnes, je ne sais pas, sur des deux roues des fois... des bicyclettes dans Paris, on a l'impression que on sait pas trop.
Voilà, ils sont pas tout à fait là. Ouais.
Ah, ils sont pas tout à fait là. Ils n'ont pas conscience que il y a des voitures, que c'est quand même dangereux, qu'il faut être vigilant, prudent, être présent, disons.
Voilà. Mmh. Et du coup, y a tout un travail sur être présent à faire en thérapie. Alors, d'abord sur la prise de conscience, comment elle fait pour revenir. Ce qui lui permet de trouver le moyen de revenir.
Oui.
Et puis la prise de conscience des moments où elle est là, où elle n'est pas là.
Et par le corps, non
Travaille beaucoup sur les aspects corporels, d'être conscient de son corps, de sa respiration, de ses sensations, d'être en contact avec le sol avec tout ce qui nous
environnement, entoure. L'environnement,
Pour revenir au réel. Voilà, et tout ce travail-là, ça se fait en thérapie, ce qui permet de revenir.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, je rappelle à nos auditeurs le téléphone 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. Si vous avez des pensées obsédantes, mais peut-être c'est normal, mais des pensées récurrentes et qui enferment en fait.
Oui, ou des scrupules. Des personnes qui ont des scrupules. Hein.
Voilà, on va en parler dans quelques instants. 01 56 2 fois 44 00 pour nous rejoindre. On se retrouve dans quelques instants.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Après réflexion et renseignements pris sur place, et compte tenu du calme revenu sur le terrain en Terre Sainte, nous avons décidé de partir en novembre comme prévu. L'occasion de nous associer plus que jamais à nos frères chrétiens d'Orient. C'est le père Duloisy qui accompagnera notre pèlerinage du 15 au 22 novembre, une semaine exceptionnelle à prix coûtant, soit 1 345 €. Venez avec nous et profitez de tous nos contacts sur place. La Terre Sainte avec Radio Notre-Dame, c'est du 15 au 22 novembre, et les renseignements sont à prendre au 01 45 49 07 77.
À l'œil du prince, Christophe Maury.
À l'œil du prince cette semaine, je reçois
Francis Lombard,
qui joue en ce moment
Les Cartes du Pouvoir
au théâtre
Héberto.
Et nous parlerons de toute la programmation de ce formidable théâtre. C'est à l'œil du prince, naturellement.
À l'œil du prince avec Christophe Maury, tous les vendredis à 11h30 et 20h sur Radio Notre-Dame.
En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche avec Marie-Noël Tabu, du mardi au vendredi à 11h15 et 17h45 sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ce qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir donc avec Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines, nous parlons des scrupules, on va y venir, et des pensées obsédantes. Donc nous voyons que ça peut, les pensées obsédantes, on peut porter un autre regard et voir le côté, le symptôme qu'il représente, on met déjà une distance par rapport
à... Voilà, et ça aide à mieux les gérer.
Oui, oui.
On peut
le
voir comme une défense, et dans ce cas-là, mais là c'est plus au niveau thérapeutique, faut voir comment les aborder, parce qu'on ne retire pas des défenses.
Oui, comme ça, oui, oui.
Voilà, faut vérifier si elles ont encore leur utilité, si elles ont pu, et comment la personne peut gérer autrement.
Parce qu'elles peuvent encore avoir une utilité.
Ça arrive, oui, oui.
Dans ce cas-là, en thérapie, on touche à rien, alors ?
On travaille à la fois à consolider. C'est-à-dire, si elles ont une utilité, ça veut dire qu'il y a une fragilité derrière.
D'accord.
Et donc, consolider ces aspects fragiles chez la personne.
Le terrain fragile, oui.
Voilà. Et puis, assouplir au fur et à mesure, on fait un travail, on consolide un peu, on assouplit les défenses, on consolide, on assouplit.
Ah oui, c'est comme on construit une maison.
Comment on construit une maison, mais quelque part, on reparticipe à une bonne construction de la personne.
On a construit comme ça, de façon sauvage, on peut dire, par les événements, comme on a pu.
Par les événements.
Et là, c'est reprendre la construction avec... la conscience, et remettre les choses d'aplomb.
Voilà, on remet les choses d'aplomb avec la personne, on l'aide à remettre d'aplomb, à retrouver sa force intérieure, et puis
assouplir
les mécanismes de défense.
Les forces peuvent être plus ou moins rigides ou souples.
Oui, on en a tous,
oui.
On les a tous, les mécanismes de défense, simplement, on les a d'une façon assez souple.
Oui, oui. Et c'est bon aussi d'en avoir parfois.
Ça, c'est bon, c'est utile. Et puis, parfois, ça devient rigide, trop rigide, à ce moment-là, quand c'est trop rigide, ça ne laisse plus aucune liberté à la personne, et voilà, et quand ça devient des tocs ou des pensées obsessionnelles,
la
personne
est
complètement enfermée dans ce processus-là. Voilà, donc c'est à la fois d'assouplir, mais tout en consolidant ce que derrière, les fragilités qu'il y a derrière.
Donc, symptômes ou mécanismes de défense.
On peut les voir aussi, on avait parlé une fois de l'esprit critique qui se retourne contre la personne. Là, on est en train d'approcher des scrupules. Et ça, c'est très fréquemment en lien avec des pensées obsédantes. C'est quand l'esprit critique va se retourner contre l'individu.
Qui va se... s'autocritiquer, mais
alors,
d'une façon maladive.
Alors, qui va s'autocritiquer d'une façon incessante, qui va sans arrêt porter des jugements sur lui-même, se dévaloriser. Et on pourrait prendre la métaphore du chien de garde. L'esprit critique, c'est un chien de garde qui nous permet de garder notre maison par rapport au danger. Voilà, mais s'il se retourne contre son maître et qu'il se met à mordre son maître, c'est pas bon. Et parfois, l'esprit critique, il se retourne contre la personne sous forme de pensée obsédante, de dévalorisation, de jugement de soi.
C'est autodestructeur, quoi.
Et là, c'est autodestructeur. Voilà, et puis le dernier point, peut-être, c'est de regarder les pensées obsédantes par rapport au scénario, parce que on avait vu que ça, on a dit tout à l'heure que ça s'organise autour d'un scénario dont la personne ne mesure pas la portée finalement, parce que ce scénario, en général, va prendre des éléments dans la réalité, ou dans la situation présente, mais il en prend aussi beaucoup dans les fantasmes inconscients. C'est-à-dire que il y a une part de réel, d'actuel, dans le scénario, mais il y a une grande part imaginaire, et c'est cette part imaginaire qu'il convient de rendre consciente et que la personne puisse la discerner, en fait. Et du coup, quand la personne perçoit mieux son scénario, à ce moment-là, elle devient capable de mettre de la distance par rapport au type de pensée, parce que elle voit le processus, le scénario qui se déroule, et elle peut dire, bon, là, je suis dans mon imaginaire, c'est bon, j'arrête là.
Oui, c'est ça. Donc, elle ne poursuit pas dans cette... Voilà, elle s'enferme plus là-dedans.
Voilà, elle n'est plus enfermée, ça lui permet de stopper tous les aspects obsessionnels. Et puis, on pourrait dire que même au-delà du scénario, c'est finalement tout le processus qui se met en place sous forme de boucle, qui convient de prendre conscience, parce qu'à chaque boucle, ça se renforce. Donc, c'est vraiment de prendre conscience. Et de pouvoir identifier comment ça se passe, quel processus ça suit dans ce mécanisme obsessionnel, voilà, quel est le point de départ et où ça arrive, et d'en prendre conscience de toutes les étapes, de façon à pouvoir désamorcer à chaque étape.
Oui, il faut désamorcer, quoi.
Voilà.
Mais... en prenant conscience de, voilà,
des différentes étapes du processus.
Oui. Alors, alors là, on a vu à peu près.
Je pense, voilà, on a fait le tour des pensées
obsédantes. On va passer au scrupule. Mais tout d'abord, nous allons écouter Karim, je crois. Hein. Karim.
Allô?
Oui, bonsoir, Karim.
Oui, bonsoir. Alors, je vous appelle, c'est parce que depuis tout à l'heure, là, je vous écoutais, là, comme par hasard, ce soir, en plus, je suis dans ma voiture, je suis pas rentré, et le problème que le docteur l'a évoqué, bah, c'est tout à fait ça. En fait, je pense souvent, j'ai comme une boucle, et je passe jamais à l'action, et je reste, dans mon... En fait, je suis très souvent très seul, et même comme... parce qu'aussi j'ai eu une séparation, bon bah ça c'est pas encore, même quand j'étais pas séparé, de toute façon j'étais comme ça déjà. Alors je pense savoir un peu d'où ça m'est venu, ça c'était plus jeune.
Oui.
Parce que mes parents ils m'ont pas vraiment laissé faire ce que j'avais envie de faire, et puis après j'avais besoin, je restais souvent très seul.
Oui.
Et ça m'a mis dans plein de problèmes, et j'arrive pas à m'en sortir, quoi. Mais on m'a demandé déjà d'aller voir un psychothérapeute, j'ai jamais fait.
Ouais, et qu'est-ce qui vous en empêche?
Pardon?
Qu'est-ce qui vous en empêche?
En fait, je me dis que à chaque fois, j'en ai pas besoin, mais en fait, avec tout ce que vous avez évoqué, là, depuis tout à l'heure, je vous écoute, ça fait bien longtemps, là, depuis que vous êtes à l'antenne, pratiquement, et tout ce que vous avez évoqué, mais c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement ce qui m'arrive, en fait.
Voilà.
Et et je sais pas comment faire pour m'en sortir de tout ça.
Ouais,
donc il y a déjà une prise de conscience à travers ce que vous avez entendu.
Mais je l'avais déjà, de toute façon, inconsciemment, de toute façon, je l'avais déjà, mais c'est vrai que je me parle souvent à moi-même, et puis je donne mes réponses moi-même, et puis je dis tout le temps, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis j'arrive jamais, en fait, je m'en sors jamais.
Ouais.
Après, j'ai aussi des problèmes financiers aussi dedans, j'ai un tas de choses, quoi, aussi. Puis à chaque fois, je me dis, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, après, je reste dans mon truc et je fais rien du tout. En fait, tellement que je pense, je suis bloqué.
Voilà, vous êtes en plein dans tout ce qu'on parle par rapport aux pensées obsédantes qui tournent en rond et qui finalement viennent et remplacer l'action, mais surtout bloquer l'action, bloquer l'engagement. Mais faites-vous aider, parce que ce qui est important, c'est à la fois de découvrir comment ça s'est mis en place, mais ça, vous le savez déjà plus ou moins, mais aussi de découvrir comment ça se passe, c'est-à-dire que sans que vous en ayez conscience, on en reparlera un peu après, sans que vous en ayez conscience, ça suit un processus qui comprend différentes étapes. Et finalement, les pensées obsédantes, c'est la dernière étape. Et on remonte comme ça, en tout cas en thérapie, on remonte le processus. Et du coup, la prise de conscience est de plus en plus tôt et ça permet de stopper le phénomène de plus en plus tôt. Et puis, on remonte jusqu'au début du processus. Donc, on n'est pas forcément dans le pourquoi, mais on peut être aussi dans le comment. Comment ça se passe? Comment je pars dans mes pensées? Comment je me rends pas compte que je suis ailleurs? Comment je reviens? Et comment je reprends conscience que je suis parti et que voilà, ça me permet de revenir. Et en reprenant toutes ces étapes-là, on voit qu'il y a différents aspects et ça va permettre de remonter jusque le point d'origine du départ. Et à ce moment-là, quand vous arrivez à être conscient du moment où vous partez, ben vous pouvez l'arrêter. Et du coup, ne plus partir dans vos pensées. Et à la place, ben, agir, si c'est, je sais pas, ça peut être téléphoner à quelqu'un, sortir, faire quelque chose.
Ben, ouais, mais c'est ça le problème aussi, c'est que j'ai pas envie d'être avec quelqu'un d'autre, en fait.
Ouais.
Si. Et ça, en fait, j'ai plusieurs, plusieurs problèmes, on va dire. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que je pense savoir d'où ça vient, quoi. Mmh. Je m'en rends compte que je suis dans une bulle, en fait, dans un cercle. Ouais. Je m'en rends bien compte, mais en fait, c'est ça. C'est plus on pense, moins on arrive à actionner, enfin,
Voilà. Et surtout, ça supprime les ressentis, parce que quand vous dites j'ai pas envie d'être avec quelqu'un, vous savez, on a tous envie de rencontrer d'autres personnes. Parce qu'on est l'être humain est un être de relation. Simplement, quand on est des pensées, dans ses pensées ou dans sa bulle, comme vous dites, on est coupé du reste, on est coupé de ses sensations, on est coupé des autres, et on a l'impression qu'on n'a pas envie. Mais une fois qu'on reprend conscience de soi-même, qu'on sort un peu de sa bulle, ou en tout cas qu'on élargit un peu le cercle de sa bulle, on se rend compte que finalement dans sa bulle on s'y ennuie beaucoup et qu'on serait beaucoup mieux avec les autres. Hein? Mais ça demande de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans la bulle, vous voyez. Et ça, tout seul c'est difficile. Souvent on a besoin d'être aidé pour ça.
Oui, de toute façon, je le sais très bien, on me l'a déjà dit plusieurs fois.
Hein. Ouais.
Même avec la personne avec qui j'étais, elle me l'a dit, même là, il n'y a pas si longtemps que ça, même mon ex-belle-mère, elle m'a appelé pour me dire d'aller voir quelqu'un. Voilà. Elle me disait carrément que j'étais bipolaire, alors...
Ouais, mais... Ça, c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment.
Oui, hein, voilà, ouais. Puis,
mais...
C'est pas vraiment...
Voilà, mais... vous êtes dans une bulle.
Ah oui, mais par contre, je suis tout à fait conscient de ce qui m'arrive. Ouais. C'est-à-dire, je suis vraiment coupé toute la journée. Je préfère rester seul.
Ouais.
Ou autrement, en fait, j'ai envie de voir. Pourtant, j'ai trois enfants et tout. Je les ai pas vus là. Ça fait depuis le mois de fin juin. Mm. Même mes enfants, j'ai même pas envie de. Tellement que je suis pas bien, en fait.
Ouais. Ouais.
J'ai pas envie de leur refaire ressentir mon mal-être. Mais ça me rend malade en fait je suis vraiment pas, je suis mal, quoi.
Ouais.
Je le sais.
Voilà, si vous le savez et que tout le monde vous conseille de faire une psychothérapie, peut-être d'autant plus que vous dites vous-même que vous êtes mal et que ça vous prive de voir vos enfants parce que vous avez peur qu'ils voient votre mal-être. Voyez, donc finalement
oui, parce que excusez-moi de vous couper, en fait c'est que quand je suis avec eux ou je suis avec, en fait je suis en train de penser à autre chose, en fait je suis en train de penser à mes problèmes, en fait je suis parti et ça me retourne encore dans ma tête, en fait je pense qu'à ça, même quand je, par exemple, même quand je vais travailler, je pense à ça, mais là en ce moment je travaille pas, mais j'ai même refusé d'aller travailler parce que j'étais pas bien.
Oui, mais voyez comment toute la place que ça c'est en train de prendre dans votre vie. À la fois, ça vous coupe de vos enfants, ça vous coupe de votre travail. Je crois que c'est important de vous faire aider.
Ouais, bah, je pense, hein? oui, je pense. Bah, c'est pour ça, en plus, ça tombait bien. Parce que, et puis, depuis tout à l'heure, j'essayais d'avoir le numéro, j'arrivais pas, parce que la dame, ouais. J'entendais mal quand prendre le numéro. Mais après, tout ce que vous avez évoqué, monsieur, mais vraiment, pratiquement tout, quand vous disiez qu'on se parlait à soi-même, qu'on donnait des réponses, que ça faisait comme une boucle, qu'on passait pas à l'action, et ben, mais vraiment tout, c'est ce que je... Ce que vous avez dit, en fait, c'est moi.
Oui, vous avez l'impression qu'on vous parlait à vous-même.
Ah bah voilà. Oui,
directement, personnellement.
Oui, c'est incroyable, on dirait qu'ils sont à l'intérieur de moi.
Non.
Ben, c'est, vous voyez,
mais
ça,
voyez, c'est... Vous, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul comme voilà. Ça, et qu'il y a beaucoup de gens qui font des thérapies parce qu'ils ont ce problème-là et que ça les aide beaucoup. Donc, peut-être il y a un petit pas à faire.
Je vais sûrement le faire, mais...
Voilà.
Après, c'est dur de, comment dire, de tout sortir, quoi. J'ai tellement de choses, en fait.
Oui, mais vous savez, on sort pas tout d'un coup. Les choses sortent progressivement et on n'est pas obligé de tout sortir. Ce qui est important, c'est de résoudre...
Ouais, d'aller par étapes.
Voilà.
Et d'aller mieux.
Mais ça va quand même, parce que je tiens le choc. Hein. Ouais. Ça va, psychologiquement, malgré tout ça et tout, ça... Je me dis, ouais, je vais m'en sortir, mais c'est vrai qu'on tourne un temps.
Ouais. Voilà. Ben voilà, ben faites le pas de voir quelqu'un et vous verrez que ça vous aidera.
Ok.
Voilà, Karim, hein. Bon courage, merci, bonne route.
Pris, puis ça m'a fait du bien de vous écouter, puis continuez là, votre émission, elle est super.
Merci.
Voilà. Ben écoutez,
et ben, je vous remercie, route. Madame et bon. Monsieur.
Merci, Karim, bonne route, revoir. Bonsoir. Voilà, nous allons écouter. Tout de suite, c'est Isabelle Aubray qui chante. Eh bien, oui, ben, quand on a pu régler un certain nombre de ces obsessions, hein, de ce processus, eh bien, on peut dire c'est beau la vie.
Radio Notre-Dame.
Le vent dans mes cheveux blancs, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau. De le dire et le chanter, oui c'est beau, la vie.
Isabelle Aubray, c'est beau la vie. Oui, quand on n'a plus d'obsession, enfin, quand on règle ses obsessions et ses scrupules, parce qu'on va arriver aux scrupules. Hein,
non, on y arrive.
On y arrive maintenant. Et vous nous disiez que c'était une forme particulière d'obsession liée alors à la culpabilité.
Voilà. À la fois une conscience morale qui est un peu qui est tyrannique.
Conscience morale tyrannique, oui.
Et du coup, à la culpabilité, parce que cette tyrannie génère de la culpabilité dans la personne.
Alors, on peut dire qu'il y a quand même de bons scrupules. On va donner un exemple et puis passer quand même à ce qui est pathologique.
Tous les bons scrupules, finalement, c'est quand on se situe à la limite sur un plan moral.
Normal, bien sûr.
Par exemple, un DRH qui doit licencier des gens, il va ressentir des scrupules, mais c'est normal parce que ça engendre des situations pour les personnes. Mmh. Donc lui, dans sa morale, il sait que c'est pas bon pour et pas bien pour les personnes.
Bah oui.
Mais il peut être obligé de le faire et du coup ressentir des scrupules. Par exemple, quand on est invité à deux endroits ou chez deux amis le même jour, on va avoir des scrupules à aller chez l'un et pas chez l'autre.
Voilà.
Donc toutes ces situations-là, c'est normal.
C'est normal. Mais alors, à quel moment ça devient pathologique alors ? Parce que c'est.
Alors, ça va devenir pathologique, soit parce que c'est pas en proportion avec l'événement, ou que ça n'a pas de lien direct. C'est-à-dire que si je suis extrêmement culpabilisé parce que je choisis plutôt un repas de voir une amie qu'une autre, et que ça me gâche ma journée, que ça me gâche ma vie et tout ça, là, c'est pas normal.
Oui.
On peut avoir des petits scrupules, c'est normal, mais quand ça devient hors de toute proportion, c'est pathologique. Quand c'est chronique...
Si c'est
chronique, si la personne ressent en permanence des scrupules, là ça devient pas normal. Oui. Ou alors parce que on les vit par rapport à des événements qu'on subit et qu'on n'a pas choisi. C'est-à-dire si on subit quelque chose sans avoir de possibilité de choix et qu'on a des scrupules, là, il y a quelque chose qui est pas normal aussi.
Oui, parce qu'on n'a pas choisi, oui.
Voilà. Ce qui veut dire que, à part les petits événements, comme on dit, petits événements, pour un DRH, c'est pas un petit événement, mais dans la vie quotidienne, à part les petits événements de questions de choix où on sait pas trop choisir, ça veut dire que la majorité des scrupules, finalement, quand il y a beaucoup de culpabilité, ils sont quand même assez pathologiques, ou en tout cas, ils relèvent d'un besoin d'aide.
Vous disiez que ça puise dans des situations concrètes,
voilà.
Aussi comme les...
Alors, il y a
pensées obsédantes,
donc ça va puiser dans le concret,
oui.
Et puis ça va puiser aussi dans l'inconscient. Et
comme les pensées obsédantes.
Voilà, et c'est ça qui va générer toute la culpabilité, c'est la part inconsciente.
Alors, on a vu que les pensées obsédantes avaient tendance à se fixer sur certains aspects de la vie de l'individu. Là, c'est pareil.
Alors, les scrupules, ils peuvent se fixer de la même façon
sur tous les aspects
de la vie. Mais il arrive, alors, pour les chrétiens, que ça se fixe plus spécialement sur des aspects qu'on pourrait dire pseudo-religieux. Puisqu'on n'est pas dans une dimension spirituelle, mais on est dans la dimension psychologique. Et du coup, ça va avoir à se fixer, par exemple, sur le péché. Et la personne va ressentir
des scrupules
par rapport au péché, mais d'une façon très obsessionnelle et exagérée. Ça peut se porter sur le temps de prière. Voilà, la personne qui s'est fixé un temps de prière et qui se sent coupable, qui n'y arrive pas, mais ça arrive à tout le monde de ne pas y arriver. Et qui du coup va se sentir extrêmement coupable de ne pas arriver à tenir un temps de prière. Ou qui va manquer la messe un dimanche et qui va se sentir extrêmement coupable d'avoir manqué la messe. Où ça peut rejoindre aussi toutes les questions morales en lien avec la, la pratique religieuse, alors morale de péché ou autre. Mais je crois que ce qui est important, c'est de prendre conscience que là, c'est pas une problématique spirituelle, mais qu'on est bien dans, dans une problématique psychologique qui se fixe sur des questions spirituelles. Ce qui fait que la, la personne a peu de chances d'y échapper parce que nul n'est parfait, on est tous pécheurs. Voilà, donc du coup, une personne scrupuleuse va très facilement se trouver des occasions de scrupules en mettant ça en lien avec la spiritualité. Mais ça sert finalement à fixer sa culpabilité inconsciente sur quelque chose. Et donc, ça lui permet au moins de, d'avoir à, de savoir de quoi elle est coupable. Voilà. On pourra le dire comme ça. Alors, dans le scrupule, en fait, ça concerne et la culpabilité mise en regard avec un idéal. Donc il y a les deux aspects de culpabilité et d'idéal. Et quand la conscience morale, donc ce qui nous permet de dire ce qui est bien, ce qui est mal, l'idéal, ce qu'on aimerait être, et la culpabilité s'associent ensemble, eh bien ça donne des scrupules. Autrement dit, il y a à la fois notre morale, notre idéal, notre culpabilité, tout ça, ça s'associe ensemble et ça fait les scrupules.
D'accord, c'est une petite composante. Voilà.
Ça fait.
Il y a des composantes différentes. Pour,
ça fait une mayonnaise, qui est un peu indigeste.
Qui
n'est pas très bonne. Voilà, mais en gros, c'est ces trois aspects-là de la personnalité.
Alors, c'est
qui...
La personne qui est atteinte de scrupules pathologiques est une personne en souffrance.
Alors, elle va être en souffrance. Ça peut donner parfois une très grande souffrance, même des angoisses intenses chez la personne. Voilà, je pense à une personne qui s'imaginait condamnée à aller en enfer. Parce que elle s'était masturbée, mais très occasionnellement. Enfin, c'était pas quelqu'un de compulsif. Très occasionnellement, elle s'était masturbée et on lui a dit que c'était un péché mortel. Et elle avait cru qu'elle était damnée. Elle s'était confessée plusieurs fois et rien n'y faisait. Voilà, elle a constamment cette obsession d'aller en enfer et avec des pensées de mort qui se rajoutaient parce que c'était tellement une telle douleur que ça, ça générait chez elle des pensées de mort. Alors, l'aspect positif, c'est que ça l'a amené à entreprendre une psychothérapie et du coup à soigner ses scrupules.
Prendre conscience.
Et puis là, il y avait un vrai parce que c'était d'une telle intensité qu'il y avait un vrai trouble psychologique. Et du coup, ça l'a permis de soigner ça. Et puis aussi, par chance, dans son parcours, elle a rencontré un prêtre qui l'a rassuré en lui disant que elle s'était confessée, qu'elle était pardonnée. Et que voilà, on a pu voir aussi ensemble que elle faisait tout ce qu'elle pouvait en son pouvoir, elle se confessait, elle faisait une psychothérapie et que Dieu ne pouvait pas lui demander plus.
Elle prenait tous les moyens. Elle désirait s'en sortir.
Que du coup, forcément, elle était pardonnée dans le sacrement de réconciliation. Voilà, mais cet exemple, il montre à quel point, dans certains cas, ça peut occasionner des angoisses intenses et une grande souffrance.
Alors, comment on peut se libérer des pensées obsédantes et fructueuses ? Alors, on peut s'en libérer ?
Ben, déjà, ça nécessite de prendre conscience
du processus en boucle, déjà. Hein.
Donc, de prendre conscience de la chronologie du processus, de trouver l'origine, les ressentis, les pensées et le scénario.
C'est ça.
Il y a ces différents aspects-là. Ensuite, il faut se poser systématiquement la question de l'adéquation. Est-ce que le ressenti est juste? Est-ce que les pensées qui correspondent à la situation? Est-ce que le scénario est réel ou imaginaire? Donc ça, il faut se le poser. Et puis, il faut apprendre à réfuter, c'est-à-dire de réaliser que si c'est imaginaire, de dire « maintenant, là, je suis dans mon imaginaire. »
Oui, c'est ça, oui.
Ensuite, il faut remonter le cycle, mais ça, c'est plus en thérapie. On remonte le cycle.
Que vous avez dit à Karine,
de façon à ce que la personne puisse arrêter de plus en plus tôt. Et à un moment, quand elle est au début du cycle, elle peut arrêter complètement.
Oui.
Voilà. Et puis, il faut reprendre contact avec l'environnement, parce que dans toutes les pensées obsessionnelles,
ça coupe
de l'environnement. Pour les scrupules, la première chose à faire, c'est à déculpabiliser.
Parce
qu'ils sont l'expression directe d'une culpabilité qui se fixe sur des aspects obsessionnels, mais il faut d'abord déculpabiliser.
Aider
la personne à prendre conscience du décalage entre sa culpabilité et la réalité, et qu'elle mesure qu'il n'y a rien à voir entre les deux. Et puis, comme tout travail de psychothérapie, faire le lien entre la culpabilité, les angoisses, les pensées morbides. Et puis, quand on a commencé à atténuer, à ce moment-là, on peut aller un peu plus loin et approfondir et traiter les scrupules, comme on a vu
pour les autres
pensées obsédantes. Voilà. D'accord. Mais c'est vraiment déculpabiliser
systématiquement.
Quand on atténue la culpabilité, on peut passer au même système que les pensées obsédantes.
Grand merci Pascal Parinet. Je rappelle le téléphone 06 60 15 79 60 et puis le site ifpsy.com. Tous les renseignements sont au standard si vous avez besoin de noter. Un grand merci. Merci à tous nos auditeurs, merci à Catherine qui vous accueille au standard ce soir et à Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit, notre invitée sera la grande pianiste internationale Elisabeth Sombard qui est fondatrice de la fondation Résonance. Et le thème de la soirée, comment être dans le monde sans être du monde aujourd'hui quand on est un artiste. Très très bonne nuit à tous, à demain.
De cette émission sur le www.radionotredame.com.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.
Oh. Vous avez des questions concernant votre foi, les évangiles, la position de l'Église sur telle ou telle question? Un prêtre est à votre écoute. Tous les dimanches soirs de 21h à 22h30, dans l'émission Un prêtre vous répond. Envoyez votre question par mail à l'adresse unprêtrevousrépond@radionotredame.com. Elle sera prise en compte le dimanche suivant.
Lumière de l'orthodoxie.
Bonjour, c'est Victor Loupan. Retrouvez-moi chaque semaine pour Lumière de l'orthodoxie, une émission consacrée à la spiritualité et à l'actualité orthodoxe.
Lumière de l'orthodoxie, avec Victor Loupan, tous les dimanches à 10h30 et 20h, et le lundi à 15h, sur Radio Notre-Dame.